Luther, le grand bienfaiteur. Ce que Luther a fait de plus important, c'est d'avoir éveillé la méfiance à l'égard des saints et de la vie contemplative tout entière. À partir de son époque seulement, le chemin qui mène à une vie contemplative non chrétienne a de nouveau été rendu accessible en Europe et un frein a été mis au mépris de l'activité laïque. Luther, qui resta un brave fils de mineur lorsqu'on l'eut enfermé dans un couvent où, à défaut d'autres profondeurs et d'autres filons, il descendit en lui-même pour y creuser de terribles galeries souterraines. Luther s'aperçut enfin qu'une vie sainte et contemplative lui était impossible, et que l'activité qu'il tenait de naissance le minerait corps et âme. Trop longtemps, il essaya de trouver par les mortifications le chemin qui mène à la sainteté. Mais il finit enfin par prendre une résolution et par se dire à part lui « Il n'existe pas de véritable vie contemplative. Nous nous sommes laissés tromper. » Les saints ne valaient pas plus que nous tous. C'était, il est vrai, une façon bien paysanne d'avoir raison. Mais pour les Allemands de cette époque, c'était la seule qui fut véritablement appropriée. Comme ils étaient édifiés de pouvoir lire dans le catéchisme de Luther, en dehors des 10 commandements, il n'y a pas d'œuvre qui puisse plaire à Dieu. Les œuvres spirituelles étant vantées des saints sont purement imaginaires. Le doute comme péché. Le christianisme a fait tout ce qui lui était possible pour fermer un cercle autour de lui. Il a déclaré que le doute à lui seul constitue un péché. On doit être précipité dans la foi sans l'aide de la raison, par un miracle, et y nager dès lors comme dans l'élément le plus clair et le moins équivoque. Un regard jeté vers la terre ferme, la pensée seule que l'on pourrait peut-être ne pas exister que pour nager, le moindre mouvement de notre nature d'amphibie, suffisent pour nous faire commettre un péché. Il faut remarquer que, de la sorte, les preuves de la foi et toute réflexion sur l'origine de la foi sont condamnables. On exige l'aveuglement et l'ivresse, et un champ éternel au-dessus des vagues où la raison s'est noyée. Égoïsme contre égoïsme. Combien y en a-t-il qui tirent encore ces deux conclusions? La vie serait intolérable s'il n'y avait point de Dieu. Ou bien, comme on dit dans les milieux idéalistes, la vie serait intolérable si elle n'avait pas au fond sa signification morale. Donc, il faut qu'il y ait un Dieu. Ou bien une signification morale de l'existence. En vérité, il en est tout autrement. Celui qui s'est habitué à cette idée ne désire pas vivre sans elle. Elle est donc nécessaire à sa conservation. Mais quelle présomption de décréter que tout ce qui est nécessaire à ma conservation doit exister en réalité? Comme si ma conservation était quelque chose de nécessaire. Que serait-ce si l'autre avait le sentiment contraire? S'il se refusait justement à vivre sous les conditions de ces deux articles de foi? Et si, une fois ces conditions réalisées, la vie ne le semblait plus digne d'être vécue? Et il en est maintenant ainsi.